Ça se reconnaît, un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barbe, ça a un caouet.
En amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
C'est une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer et de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui Sandrine Laurent et Élise Christophe à la technique, et assistée de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinazas et Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur, car sur les routes, c'est promis, fini la répression, place à la pédagogie. Plutôt que de nous retirer bêtement des points sur le permis, les radars pédagogiques nous feront gentiment la leçon. Votre vitesse actuelle est de 180 km/h, la vitesse d'un faucon pèlerin en piqué. Nous vous rappelons que vous n'êtes pas un oiseau, que vous êtes en train de conduire une voiture. Alors la pédagogie, voyez-vous, ça vaut dans tous les domaines. Hein. Prenez la catastrophe de Fukushima, on nous l'a confirmé cette semaine. Les cœurs de 3 réacteurs de la centrale ont fondu, libérés dans la nature suffisamment de radioactivité pour flasher tous les conducteurs dans un rayon de 100 km, la radioactivité, on l'a compris, se fiche des frontières. Aussi, nos amis suisses se sont dit « on va peut-être abandonner progressivement le nucléaire jusqu'à 2034 », ce qui leur laisse une bonne vingtaine d'années et un joli magot pour explorer de nouvelles sources d'économie d'énergie. Rappelons que la Suisse est championne du monde de l'intensité énergétique et consomme moitié moins d'énergie que nous par unité de PIB. Alors, autre exemple de panneau avertisseur des catastrophes à venir, eh ben, la sécheresse record qui menace malheureusement nos agriculteurs. Mieux que tous les sommets sur le climat réunis, est-ce que ça nous fera prendre conscience que notre société va trop vite? Et plutôt que d'adapter les semences au niveau des ressources que proposait intelligemment la ministre de l'écologie, eh ben, on répond, mais oui, mais il nous faut davantage en fait de réserves et on va poursuivre avec le maïs, une plante qui a toujours soif en été. Pendant ce temps, en Chine, alors là, remake pédagogique de la grenouille et du bœuf dans la province de Jiangsu où les pastèques explosent à tour de bras. Ouais. Alors le coupable présumé est un engrais miracle, le forchlorféniron de son petit nom, bien connu des agriculteurs du coin pour pousser la croissance des cucurbitacées bien au-delà de la vitesse autorisée. Hein, quand on vous disait que le dopage n'était pas réservé aux coureurs cyclistes. D'ailleurs, pas besoin de radar ni de mouchard pour circuler à bicyclette. Une activité accessible à tous de 5 à 87 ans, ça tombe bien parce que ce week-end, partout en France, c'est la fête du vélo. Et cet après-midi, eh ben c'est aussi la fête contre la corrida. Rendez-vous place du Palais Royal à Paris pour une séance pédagogique sur l'art et la manière de vivre en bon terme avec nos amis les bêtes, plutôt que de passer notre temps à les piéger, hameçonner, dégommer, truffer de plomb, ou bien utiliser les banderilles et les transformer en fanfares à coups de muleta. Non, le tout au nom du patrimoine immatériel de la nation qui est cher à notre ministre de la Culture qui a, semble-t-il, flashé sur une supposée tradition de la barbarie ordinaire. Alors la vitesse, on le sait, est mauvaise conseillère. Aussi, je vous salue, amis auditeurs, et bienvenue dans cette émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite. Alors ça va être une émission assez internationale parce qu'on va partir en Chine, on va aller aux USA, on va aller du côté des Maldives, on va aller en Europe et on va quand même commencer par la France avec un petit sourire. Bonjour Marc Jolivet.
Salut Denis, comment vas-tu ?
Oh, nous allons très très bien, on vous entend régulièrement évidemment sur le générique de cette émission car on a repris l'extrait d'un de vos sketchs. Et alors vous êtes à Malemort. Malemort, ça se trouve dans les Bouches-du-Rhône entre Aix et Avignon avec un spectacle dont vous êtes vraiment l'initiateur, Le Rire pour la Planète. Alors racontez-nous parce que ça a lieu ce week-end et surtout que se passe-t-il avec les enfants parce que vous mettez le paquet avec un travail avec les enfants.
Rire pour la Planète est une association que j'ai créé il y a exactement 2 ans. Donc je travaille avec les écoles et nous prenons les enfants qui inventent. L'idée, c'est de dire une écologie joyeuse, innovante, que le rire pour la planète, c'est demain. La solution à tous nos problèmes, à mon avis, ce sont les enfants. C'est eux qui vont trouver les solutions. Alors on travaille ensemble et en plus on travaille ensemble en essayant de rire. Et là, ce week-end à Malemort en Provence, il y a l'Orchestre Symphonique Lyonnais qui arrive et les enfants vont voir pour la première fois, je pense, au monde, un enfant de 7 ans qui va diriger l'Orchestre Symphonique Lyonnais. Voilà, on a travaillé et ils vont eux aussi chanter, danser, c'est la fête.
Voilà, et voilà. C'est la fête autour de l'écologie, autour de la Méditerranée, parce que les enfants ont travaillé aussi sur des plantations méditerranéennes. Donc un grand merci Marc Jolivet, très belle fête. Donc c'est à Malemort dans les Bouches-du-Rhône. Et puis pendant
Malemort
que
en Provence.
Malemort en Provence. Et puis alors pas très très loin, je tiens quand même à le signaler aussi, vous avez une très belle foire qui est celle de Nyons, donc jusqu'à demain aussi, donc une foire éco-biologique. Et ces gens-là font un travail assez remarquable. D'ailleurs, je crois qu'il y aura la présence de Jean-Marie Pelt qui devrait être là aujourd'hui ou bien demain. Merci cher Marc. Et donc nous débutons
merci
en musique.
Merci à vous les amis.
À bientôt. Salut. Little Comets, c'est notre premier disque choisi par Muriel Pérez.
C'est au de mon amour, Denis Chessy.
Economic downturn, you can get a job. Apologetic parents, you can get a job. Sometimes I'm feeling just like Cupid with a bow and arrow, and I'm firing it at people who remain too shallow. In the B.O.R.D., I say British Isles. The streets are bleak, the kids are running wild. Terror on the pavement, panic in the street. In the twisted silence of our sheets, sometimes I lie awake for hours feeling so synthetic, while my eyes are screaming out for something way more epic. It's the B.O.R.D. I say British Isles.
Easels, c'était Little Comet, c'est bien sur les îles, nous irons tout à l'heure, mais ce sera avec Anne Rioux du côté des Maldives. En attendant, je sais que vous en rêvez, un petit coup de parabène et de phtalate. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous allons parabéner, nous allons phtalater aussi aujourd'hui.
Oui.
Dites-nous tout, parabène et phtalate.
Que de beaux néologismes, oui. Eh bien écoutez, il y a parfois en écologie des divines surprises. Le 3 mai est passé devant l'Assemblée nationale une proposition de loi, donc qui ne vient pas du gouvernement, visant à l'interdiction de ces molécules plus que suspectes que sont les parabènes et les phtalates. Bon, la loi n'est pas encore adoptée. Elle est passée seulement et adoptée par l'Assemblée nationale. Elle doit passer au Sénat encore. Et puis le gouvernement n'est pas très chaud, parce que ce sont des intérêts économiques, évidemment, qui sont visés dans cette affaire.
Autrement dit, il est urgent d'attendre, c'est ce que l'on comprend du côté du Sénat.
Ben, du côté du Sénat, le gouvernement pense en tout cas qu'il est urgent d'attendre. Oui, c'est sûrement, sûrement. Alors, c'est quand même quelque chose de très positif que les députés sont devenus très sensibles aux effets néfastes de certaines molécules qui traînent partout. Alors d'abord, il faut les définir, les parabènes, c'est quoi? Alors, les parabènes, ce sont des conservateurs, surtout dans l'agroalimentaire et dans la cosmétologie, parce qu'ils sont antibactériens et antifongiques. Et ils évitent par conséquent que des moisissures se forment sur des produits consommables.
Et donc on les trouve dans plusieurs produits d'hygiène et de soins corporels.
Beaucoup, dans beaucoup de produits d'hygiène et de soins corporels. Alors les phtalates, ce sont des plastifiants qui ont comme capacité de rendre souples les plastiques.
D'accord.
Alors ceux-là, on les trouve aussi un peu partout. D'ailleurs, dans beaucoup de revêtements plastiques, dans des colles, dans des jouets, dans des cosmétiques, dans des lubrifiants. Et malheureusement, ces molécules se sont dissipées, dispersées dans l'eau, dans l'air, dans les sols, dans les sédiments, dans les pluies, les poussières. On en repère partout maintenant. Ce qui est le cas de beaucoup de molécules, malheureusement. Or, ces molécules, aussi bien parabènes que phtalates, sont classées en CMR. C'est cancérigène, mutagène et reprotoxique. Voilà ce que ça veut dire. Alors, tout le monde comprend ce que c'est qu'un cancérigène et ce que c'est qu'un mutagène qui provoque des mutations. Ça, on a compris. Mais reprotoxique, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Ça veut dire toxique pour la reproduction humaine et animale. Ah. Ces molécules ont souvent des structures qui ressemblent à celles des œstrogènes, des hormones œstrogènes, et par conséquent vont perturber le fonctionnement endocrinien. Ils vont avoir, comme ce sont des œstrogènes, un effet désastreux sur la formation des spermatozoïdes chez l'homme. Il faut rappeler que nous, les hommes d'aujourd'hui, avons deux fois moins de spermatozoïdes dans notre sperme que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Et par-dessus le marché, ceux qui nous restent sont parfois plutôt feignants. Oui. De sorte que la fertilité masculine a beaucoup baissé, et que lorsque dans un couple il y a un problème de fertilité, le gynéco ne pense plus d'abord à la femme comme c'était le cas avant, mais maintenant il pense d'abord à l'homme. Oui. Voilà. Maintenant, en plus, ces produits ont tendance à passer dans le cordon, donc la maman les envoie au fœtus. Ça peut avoir des conséquences tout à fait fâcheuses sur le bébé. Alors on a donc décidé, ce que je trouve très positif, de mener la chasse à ces molécules. Et la chasse a commencé il y a déjà quelques années, lorsqu'on a, vous vous en souvenez peut-être, interdit le bisphénol A dans les biberons. Vous vous rappelez de cela? Et puis on a aussi interdit dans les jouets l'utilisation de ces produits avec effet en mars 2011, c'est-à-dire que maintenant, en effet, c'est interdit. L'Union européenne est intervenue dans ce sens-là. Il y a aussi maintenant le fait que les emballages plastiques à contact alimentaire ne peuvent plus utiliser de telles substances, en particulier plus de phtalates. Mmh. La cosmétologie a de plus en plus tendance à ne plus utiliser des parabènes, et quand ce sont les produits cosmétiques qui sont marqués sans parabènes, c'est un argument publicitaire très efficace, parce que les consommateurs commencent à regarder les étiquettes.
Ah oui. Alors, le suivi, comment ça se passe, donc, de ces fameux CMR donc...
Alors, ces CMR, il y a eu tout récemment une prise de position très intéressante du réseau Environnement Santé, oui, qui est présidé et animé par un excellent spécialiste de ces questions, qui est André Sicolella. Oui,
toxicologue.
Toxicologue, monsieur. André Picot, oui, aussi, toxicologue. Ce réseau vient de saisir la Commission européenne au sujet de ces perturbateurs hormonaux et a publié tout récemment une liste de 22 molécules dont ils estiment qu'une substitution immédiate est nécessaire. Parce que quand on retire un produit, il faut essayer d'en mettre un autre à la place pour le remplacer. Alors il y a dans cette liste-là notamment 3 phtalates et 2 parabènes, parce que phtalates et parabènes, ce n'est pas un produit, c'est des familles de produits. C'est des familles de produits.
Alors est-ce que tout ceci en fait relève de la réglementation REACH?
Ça relève absolument de la réglementation REACH, c'est-à-dire que l'Union européenne fait la chasse à ces produits suspects et tente à les retirer du marché avec des difficultés quand il n'y a pas de substitution. Mais sur ce plan-là, l'Union européenne fait du très bon travail. Et cet effort de moraliser et de sécuriser la chimie est quand même très important. Alors l'Union européenne a une rubrique des substances chimiques extrêmement préoccupantes. Voilà. Et c'est ces substances chimiques extrêmement préoccupantes qui petit à petit disparaissent des marchés. Alors il y a évidemment un lien entre ces substances et la reprotoxicité, mais il y a probablement aussi un lien avec les cancers. On voit qu'il y a de plus en plus de cancers décelés, les causes sont sans doute multiples, on en guérit, Dieu merci, de plus en plus, 1 sur 2 actuellement, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, mais il y a aussi la prévention, et la prévention c'est de faire disparaître ces molécules qui n'ont plus lieu d'être dans les milieux et qui parfois traînent encore dans les milieux naturels.
Alors chez nous, on résume, l'Assemblée nationale s'est emparée de l'affaire. Le Sénat et le gouvernement freinent, parce que quand même faut...
Oui, le gouvernement freine.
Pour des raisons économiques par rapport
pour
à...
Pour des raisons économiques, parce que les parabènes, ça se fabrique et ça se consomme par des millions de tonnes sur la planète. Enfin, oui. Ce sont des molécules qui sont très utilisées.
Mais l'Europe souhaiterait s'en débarrasser aussi.
Oui, tout à fait.
Nous
sommes plutôt des résistants, c'est mais ça. Sur ce plan, moi j'aime bien le travail de l'Europe sur ce terrain-là, parce que c'est quand même très positif. Moi je crois qu'on a mis plus de 100 000, sans doute beaucoup plus même, de molécules nouvelles sur le marché depuis, disons, 1950.
Sans connaître du tout, effectivement, après les conséquences.
Voilà, tout à fait. on se donne un mal de chien pour les médicaments, et malgré tout, il y a des affaires pour le médiateur, mais il est évident que pour beaucoup de molécules, il faut absolument qu'elles disparaissent.
Merci Jean-Marie Pelt. On reviendra sur l'Europe tout à l'heure avec Michel Rivasi. On va aller maintenant en Chine, rejoindre Éric Meyer, qui est journaliste pour différents supports, qui est correspondant. Et Éric Meyer, avec vous, on va parler tout d'abord du barrage des Trois Gorges. Alors, un tout petit peu d'histoire. On est en 1993, lorsque Li Peng, qui est le Premier ministre, a imposé ce projet, il y tenait parce que c'était vraiment son enfant, malgré un rarissime vote adverse de l'Assemblée nationale populaire. Racontez-nous, Éric Meyer.
Ça a été incroyable. Toutes les années que j'ai passées en Chine, depuis cette époque, je n'ai plus jamais revu ça. Il y a eu 1000 députés, un tiers de l'Assemblée nationale populaire qui a voté contre. Sur le tiers, il y en a un tiers qui a dit non, un autre qui s'est abstenu, un troisième qui a pas voulu voter du tout. Et au total, ça faisait un tiers de tous les députés, eh ben, de toute l'histoire du régime, on n'a jamais vu ça, vous voyez. Parce que simplement, ils avaient peur de cet immense barrage qui est incroyable, qui a 26 turbines, dans une partie fournie par Alstom, d'ailleurs en France, 26 turbines d'une puissance de 20 de centrales nucléaires ou 20 réacteurs nucléaires français, quoi.
Alors aujourd'hui, évidemment, les écologistes, même à l'époque, criaient quand même casse-cou. Problème quand même assez important dans cette petite mer intérieure.
Alors, il se trouve, il se passe deux choses en ce moment. Tout le centre de la Chine est à sec, mais incroyablement à sec. Dans la province où se trouve le barrage des Trois Gorges, vous avez 1400 lacs qui sont desséchés, les bateaux contre la vase par terre, quoi. Et le barrage est obligé de relâcher trois fois plus d'eau qu'il n'en reçoit. Et donc, en 15 jours, il aura lâché 5 milliards de mètres cubes. C'est énorme. Et 12% de sa capacité, et tout ça pour soutenir au ras des pâquerettes la navigation en aval, vous voyez. Mais en même temps, il peut moins produire d'électricité, il peut plus produire ce qu'il avait promis. Donc c'est à ce moment-là que le gouvernement dit « Attention, nous admettons cette fois-ci que le barrage a des problèmes avec les 1,4 million de paysans déplacés qui n'ont jamais été relogés correctement, qui sont au chômage parce qu'ils n'ont plus de terre, qui se suicident, qui font exploser des voitures ou des préfectures, des choses comme ça. Donc ça fait nettement un désordre. Et vous avez un immense problème de pollution aussi, une mer intérieure de 600 km de long où il faudrait des centaines de centres d'épuration des eaux usées, des usines, et ils ne sont pas là. Donc ce lac ressemble à une vraie toilette publique avec des débris qui flotte en surface, ça empêchera même la navigation.
Et puis des berges, bien sûr, qui sont en train de s'éroder, donc qui chutent, sans oublier non plus donc des émissions tout à fait puissantes de méthane hein, qui émanent donc de la vase. On va passer à un autre sujet, Éric Meyer, celui de Fukushima. Donc la Chine, évidemment, est tout à fait inquiète. Comment réagit-elle donc, par rapport à ce problème nucléaire ?
Écoutez, elle a réagi de deux manières. D'abord, en augmentant, en décuplant les précautions face au Japon, avec un petit peu de mauvais vouloir quand même aussi, parce que par exemple, un navire, un cargo qui était passé à 80 km de Fukushima, qui était effectivement irradié, mais pas grand-chose, a été interdit d'accostage au port d'arrivée en Chine. Le territoire chinois a été interdit aux produits agricoles nippons, qui sont pourtant extrêmement appréciés comme d'une excellente qualité, quoi, généralement. Mais en même temps, bon, il y a un très très vieux problème, et de part et d'autre, hein, il faut dire, ces deux pays ne s'aiment pas. Ça ressemble un petit peu à une France et une Allemagne qui ne se seraient pas pardonné la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'un et l'autre, au niveau central, au niveau des gouvernements, essayent quand même de se réconcilier et de se rapprocher. Ils font des efforts sensibles. Donc qu'est-ce que la Chine va faire de son programme nucléaire alors qu'elle venait de s'engager à tripler ou quadrupler son programme nucléaire, même plus que ça, passer de 10 gigawatts actuels, dont une partie par la France, par Areva, par EDF, et de passer à 70 gigawatts d'ici 20 ans.
Ce qui représente 34 centrales nouvelles.
Hein. C'est ça, avec 34 centrales nouvelles. Donc la Chine a fait un énorme travail en peu de temps. Elle s'est dotée de règlements et de normes sécuritaires qui n'existaient pas avant. Par exemple, désormais, aucune centrale n'a le droit d'être bâtie à moins de 25 mètres d'altitude par rapport à la mer, afin d'éviter les tsunamis, justement. Et ça fait donc plusieurs projets de centrales qui ont été éliminés des cartons chinois. Mais une fois que tout ce travail sécuritaire est engagé, et croyez-moi, ce n'est pas fini, la Chine dit, ben nous, on persiste et signe, on réalisera notre programme, et pour nous, c'est une chance immense. Ils admirent beaucoup la France, hein. La France qui a 80 ou 74% de son son nucléaire, son énergie en nucléaire, et qui vend de l'électricité aux Allemands, et qui la vend aux Suisses, et qui la vend aux Italiens et aux Anglais, et tous ces pays qui disent « nous, on n'a pas de centrale nucléaire, ou le moins possible, on n'est pas nucléaire, mais par contre, on achète de l'électricité ». Vous voyez, les Chinois aimeraient bien faire quelque chose comme ça, d'abord pour eux-mêmes, ils ont des besoins insatiables, et puis si nécessaire, la vendre aux voisins aussi, comme à Hong Kong, par exemple. Hong Kong, l'électricité vient de Dayabé, qui est une centrale d'Areva.
Nous leur exportons Mireille Mathieu, et donc aussi les centrales nucléaires. Éric Meyer, voilà. Parlons maintenant, s'il vous plaît, donc, du sommet de Durban, donc, qui aura lieu en Afrique du Sud à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? La Chine a toujours été, d'ailleurs aussi main dans la main avec les États-Unis, tout à fait réfractaire donc, pour ces taxes carbone, pour ces quotas de carbone. Qu'en est-il pour la Chine?
Si vous voulez, la Chine, sous l'angle idéologique, qui tient de moins en moins la route, mais elle estime qu'elle est un pays du tiers-monde et un pays socialiste et un pays pauvre, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on regarde des villes comme Pékin, Shanghai ou Canton, elles sont pratiquement des niveaux de Paris, mais elle dit on est un pays pauvre, on a le droit à se développer et donc on a le droit à polluer entièrement et vous, les États bourgeois qui vous enrichissez depuis 150 ans, vous allez attendre un petit peu que nous, on se soit arrivé à un minimum de développement, quoi. Alors, cette thèse ne tient pas la route face à l'étranger, parce qu'elle est le plus gros pollueur du monde aujourd'hui, de très loin, devant même les États-Unis depuis 2-3 ans. Et elle sait que ça engage, endommage son image, et on voit même arriver maintenant, par la bande, des obligations pour la Chine de respecter les quotas des crédits carbone en Europe même par le biais de l'aviation, par exemple. Donc la Chine se trouve enfin face à très très bientôt, dans 18 mois, elle change de gouvernement. Il y aura le 18e congrès du Parti communiste et avant ce 18e congrès, rien idéologiquement ne peut changer. Par conséquent, il faut s'attendre de la part de la Chine à Durban en novembre et décembre prochain en Afrique du Sud à une ligne extrêmement dure qui est celle que je viens de vous exposer.
Merci Éric Meyer. Moi, je vais vous renvoyer sur votre blog. Hein. C'est levendelachine.com. Il est sur le site de CO2 Mon Amour. Et puis donc, on va poursuivre ce voyage assez international. On mettra le cap sur les Maldives avec le réchauffement climatique. Ce sera après 2 minutes 40. Et ça, on va pas bouder notre plaisir.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Seulement d'oublier et puis je
Pink Martini sur France Inter avant de partir, où ça? Aux Maldives. Ah oui, alors là, évidemment, on pense aux vacances tout de suite. Archipel de l'océan Indien, nous sommes à 450 km au sud de l'Inde. Les Maldives, c'est 250 km² de terre émergée, 22 atolls, 3 îles isolées. Et quand même, en octobre 2009, de manière tout à fait symbolique, le président des Maldives a organisé un conseil des ministres sous-marins à 3 mètres sous l'eau afin d'alerter l'opinion publique internationale sur le risque de disparition de son pays. On rappelle que le point culminant est à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors Anne Riou est partie là-bas avec son magnétophone et donc a parlé réchauffement climatique avec les habitants.
Je vais vous montrer tous les articles qui parlent de vous. On dit que les Maldives sont menacées de disparition sous les eaux.
On ne sent pas les effets de la montée des eaux, car depuis notre enfance, l'île est pareille. Cependant, nous constatons de plus en plus l'érosion à certains endroits de l'île.
Donc on dit que l'eau va monter de 50 cm à 1 mètre d'ici 50 à 100 ans. Quelle est la hauteur de votre île ?
L'île fait environ 1 mètre de hauteur. Mais comme nous sommes musulmans et que nous faisons confiance en notre Dieu Allah, nous ne croyons pas que l'île puisse être détruite dans 50 ou 100 ans. Nous ne croyons pas que le niveau de l'île va monter. Nous faisons toujours confiance en notre Dieu, notre Créateur. Depuis notre enfance, il y a une rumeur. Mais comme nous ne voyons rien changer, nous n'y croyons pas. Ça ne change rien de vivre sur une île très basse ou très haute. Ce qui doit arriver, arrivera, donc on reste.
Donc il y a tout le monde qui est venu pour discuter et tout le monde est d'accord.
Aujourd'hui même, on a annoncé qu'un comité allait tout planifier pour que les Maldives soient le premier pays neutre en carbone. C'est lié au changement climatique actuel. Et à l'école, ainsi qu'à la télévision, il y a des programmes de sensibilisation à l'environnement. On y traite de l'effet de serre et des effets du phénomène El Niño sur notre barrière de corail.
On ne peut pas contester qu'il y a un réchauffement de la planète et qu'il y a donc une montée des eaux.
Nous sommes une petite nation. On ne peut pas renverser le processus. Mais au moins, nous pouvons faire passer le message au monde que nous serons les premiers touchés et que ça a déjà commencé pour nous. Par notre éducation, nous savons que 6 degrés peuvent changer le monde et que la Terre se réchauffe de 1,8 degré. Et nous savons qu'au-delà de 2 degrés, le phénomène devient irréversible. Ce que je vous dis là, c'est mon opinion et non celle des chefs de village.
Je confirme que, quelle que soit la hauteur de l'île, je fais confiance en mon Dieu. Le tsunami est une punition envoyée par Dieu. On ne peut pas échapper à la punition de Dieu. Donc je ne crois pas ce que disent les scientifiques. Et je continue à croire ce que me dit ma religion.
Maintenant, on va faire un tour de l'île. Il y a de l'électricité dans quelques rues, hein, pas toutes, hein, dans une rue principale. Et c'est évidemment dû à un générateur.
En fait, ça représente beaucoup d'argent par rapport à nos revenus. Évidemment, avec la modernité, la télévision, les ventilateurs, l'électricité est devenue indispensable pour nous. Maintenant, beaucoup de maisons ont installé l'air conditionné, car il fait de plus en plus chaud chaque année. De plus, les avis sont partagés en fonction de l'éducation. Mais désormais, tout le monde est d'accord pour dire que le climat change, qu'il y a plus de tempêtes et que les saisons des pluies ou les saisons sèches sont devenues imprévisibles.
Alors là, bon, maintenant on est arrivé au bord de l'île et avec une lampe de poche, on me montre les espèces de digues qui ont été faites avec des grosses pierres.
During high tide, the waves will pound onto this house.
Et que quand il y a des grandes marées, on me dit que les vagues arrivent jusqu'aux maisons.
I think it's 50-60 around meters.
Et là, c'est entre 50 et 60 mètres entre la berge et les maisons.
But this is a wider area. You will see houses much closer to the shore.
Il y en a qui sont beaucoup plus proches.
This is near.
C'est nouveau que l'île s'érode de plus en plus.
All the islands of Maldives is having problems with erosion. In fact, we heard on news that one island in Ba Atoll is eroding.
Alors, il y a certaines îles qui ont des problèmes encore plus importants, puisqu'il paraît que l'île s'érode d'un mètre par semaine.
Yes. The government is trying and working on it.
Donc le gouvernement s'en occupe, mais Ziad me dit qu'il n'a pas trop de nouvelles, mais que les arbres tombent rapidement et qu'il donne même des... Il a entendu des interviews à la télévision où le chef du village en parlait beaucoup.
There's a house here.
Alors là, bon, on voit une maison. Là, l'espace est très étroit entre la plage et la maison. Il y a quoi ? Il y a 10 mètres, même pas.
This is the big problem in the Maldives.
Ouais, c'est le grand problème, tout le monde est d'accord, c'est le grand problème des Maldives. C'est-à-dire que toutes ces constructions changent le sens des courants ou contrarient les courants et donc évidemment ça n'est pas sans effet pervers.
If you notice on this corner here, we had lots of trees before, but now everything is gone.
Ah oui, alors l'île venait jusqu'ici et maintenant bah, c'est de l'eau.
So that's an erosion of about 250 meters there.
Donc il y a 200 mètres qui ont disparu en combien de temps ?
In about 30 years.
En 30 ans. Alors, jusqu'à présent, c'était assez lent, mais maintenant, ils trouvent que ça va de plus en plus vite.
And in fact, that's another issue. Where the whole island is running out of drinking water now.
Ah oui, alors maintenant aussi, le problème, c'est que comme les saisons ne sont plus régulées, et ben depuis 2-3 mois, il n'a pas assez plu, ce qui fait le plaisir des touristes,
so
d'accord. Et donc, ils sont en rupture d'eau douce. Donc on a pris une lampe de poche pour y voir quelque chose et on va vers le bord de mer. Remarquez, c'est jamais très loin le bord de mer sur cette île. Par terre, il y a une petite herbe rase. Donc là, on passe devant le cimetière qui sont des tombes en pleine terre.
We are very, very worried on this situation because we don't have enough land.
Alors c'est un énorme problème pour l'île parce que l'île est trop petite, surtout qu'elle se rétrécit chaque année.
Three coffins from the beach side.
Ils ont été obligés de déplacer trois tombes à cause de l'érosion. Bon, mais maintenant on est sur une petite pointe de sable qui est au milieu de la lagune. Pour l'instant on est au sec, mais on va rentrer en bateau sur l'île en face, l'île de Condoma. Et qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens qui nous écoutent ?
Merci de me donner cette opportunité de passer un message au monde entier grâce à votre radio. Je voudrais souligner ce qu'a dit au monde notre président. S'il vous plaît, ne soyez pas stupides. Nous essayons d'être le premier pays au monde à être neutre en carbone. S'il vous plaît, aidez-nous. Nous avons besoin de votre aide. Nous allons agir et vous montrer que notre but dans les 10 prochaines années est d'être non émetteur de carbone. Et nous voudrions que le monde fasse pareil. Nous voulons rester avec nos enfants et nos petits-enfants sur ces îles. Ils pourront vivre uniquement si vous nous aidez.
Est-ce que vous croyez que dans 100 ans, les Maldives vont disparaître complètement de la carte ?
Si les scientifiques ne se trompent pas dans leurs calculs, certainement. Jusqu'à présent, nous n'avions pas prévu. Et nous croisons les doigts en espérant que le monde nous aidera et renversera la situation.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Réalité du réchauffement climatique aux Maldives. Merci à Anne Rioux pour cet excellent reportage. À Ziad aussi, qui était votre traducteur, plongeur et donc bien concerné par ces soucis d'environnement. Et on va poursuivre ce voyage. Donc nous avons fait un petit tour en Chine. Nous étions aux Maldives. On va aller aux États-Unis rejoindre Hélène Krievi-Esner en Virginie du Nord, journaliste de son État, rue 89, politiste, j'en passe des meilleurs. Bonjour Hélène.
Bonjour Denis.
On va parler avec vous de catastrophes naturelles parce que depuis quelques semaines, ça a l'air de s'amplifier. Tornades meurtrières en rafale, le Mississippi qui a battu tous ses précédents records de crue, des feux très précoces qui ravagent le Texas. Bon, est-ce que ces événements en fait soulèvent des débats sur les changements climatiques parce qu'on sait qu'une majorité d'Américains n'y croient pas ?
Ah oui, ça soulève des débats, Denis. Je suis même surprise qu'entre la mort de Ben Laden, l'affaire DSK, dont on parle quand même beaucoup, et le prix de l'essence, ben les gens trouvent encore le temps de parler du changement climatique. Bon, faut dire, c'est vrai que les événements se sont enchaînés, mais de façon dramatique. Notamment les tornades, qui se mettent maintenant à passer en pleine ville, c'était rare autrefois, et normalement la moyenne des morts dues aux tornades est de 55 par an. Et cette année, en moins de 2 mois, il y a eu 481 morts. Les tornades sont tellement larges, puissantes, ça s'est jamais vu avant. Alors oui, les débats font rage. On entend des scientifiques dire que ces phénomènes n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique. D'autres, plus nombreux, disent qu'on n'a pas encore étudié vraiment le lien avec la formation des tornades. Mais alors la semaine dernière, un groupe très connu de scientifiques, c'est ce groupe qui avait résisté aux manipulations opérées sous Bush dans les données sur le climat. Donc ce groupe donc s'est exprimé, je vais le citer là, je vous le cite. La météo extrême va devenir la nouvelle norme. Ça va. En clair, les nouveaux standards météo américains, ça va être des inondations démesurées, des ouragans violentissimes, des tornades pas normales, des tempêtes de neige apocalyptiques et puis des sécheresses.
Ce que font toujours dire les climatologues, c'est que déjà depuis de très nombreuses années, c'est que ce serait une accentuation donc des extrêmes, hein, toujours.
Accentuation des extrêmes, oui. Et donc même s'il n'y a pas de preuves absolument, etc., il faut s'attendre à ça. Alors il faut s'attendre à ce que ce soit les catastrophes tout le temps.
Alors Hélène Crié, en fait, si les changements climatiques, on va dire, intéressent toujours un peu donc les Américains, comment on explique que le Congrès des États-Unis vienne de voter une loi pour accélérer l'efforage de gaz et de pétrole dans le golfe du Mexique?
Ah bah oui, c'est un peu schizophrène tout ça. Hein.
Oui.
En fait, cette loi adoptée par la Chambre des représentants début mai, il y a 3 semaines, elle a été invalidée in extremis au Sénat 2 semaines plus tard, où il n'y a pas tout à fait la même majorité. Mais ça ne veut pas dire que les forages vont s'arrêter comme l'an dernier, hein, quand Obama avait décrété leur moratoire au début de la marée noire. Hein. Ils vont juste pas s'accélérer. Les forages, ils ont repris tout doucement depuis février. C'est Shell qui a bénéficié du tout premier permis de creuser en eau profonde. Et suite à l'explosion de la plateforme de BP, le gouvernement avait rendu plus sévères les procédures de délivrance des permis. En gros, c'est un minimum, les compagnies doivent démontrer qu'elles ont tout prévu pour éviter les pépins. Et le truc, c'est que ce luxe de précaution, ça exaspère les exploitants parce que ça entraîne une augmentation des coûts et des délais. Et les pétroliers ont fait savoir leur mécontentement aux élus républicains, qui sont majoritaires politiquement quand même globalement au Congrès. Et ces élus veulent surtout pas heurter les pétroliers parce que ça, eux, ils contribuent généreusement au financement de leur parti. Alors les républicains, ils relaient le message auprès des électeurs. Si vous voulez faire baisser le prix de l'essence, faut forer.
D'accord.
Forer dans les eaux américaines autant qu'on peut.
Alors, aujourd'hui, dans le golfe du Mexique, une nouvelle marée noire est toujours possible. Est-ce qu'une pareille menace, ça refroidit pas un peu les gens quand même?
Ah bah c'est sûr qu'un accident c'est encore possible, même si les permis sont plus durs à obtenir, les pratiques d'extraction vont pas changer du jour au lendemain.
Mmh.
Les compagnies elles-mêmes elles admettent que c'est un travail de longue haleine, mais il y a tellement de gens, Denis, qui vivent de l'exploitation du pétrole, notamment en Louisiane et au Texas, qu'en dépit des risques pour leur propre environnement, ils sont pas nombreux à vouloir ralentir le rythme. Je l'avais bien vu l'an dernier quand j'étais là-bas pendant la marée noire, même les pêcheurs dont les zones étaient dévastées, ils réclamaient pas de pause. Personne n'a envie d'un ralentissement économique dans sa région, tout le monde a peur pour son job.
Alors derrière tout ça, on va se dire qu'une exploitation raisonnable des ressources naturelles, rêvons un peu, une participation des citoyens aux décisions, peut-être que c'est possible. Vous n'allez peut-être pas me dire non plus que les pêcheurs, les professionnels du tourisme ont été contents de voir leur gagne-pain donc anéanti par le pétrole l'an dernier. L'activité économique, donc basée sur un développement, on va dire, plus soutenable, en tout cas moins sale, ça prend comme idée là-bas ou non?
Malheureux, Denis, faut pas prononcer ces mots épouvantables. Le développement durable. J'ai découvert il y a peu de temps que le développement durable, c'est un truc relativement, une idée relativement consensuelle en France maintenant.
Oui, tout à fait. Oui,
ouais, c'est devenu l'ennemi absolu, du moins pour une partie de la droite américaine, qui décrit l'ennemi comme ça. C'est du communisme rampant.
Ah, carrément?
Carrément, on accuse le développement durable.
Le communisme en parle, oui.
On accuse le développement durable d'être un outil caché de l'ONU pour saper, alors là je vais les citer, pour saper le droit de propriété, pour imposer une certaine, entre guillemets, justice sociale, laquelle implique un minimum de répartition des richesses de la terre, et pour eux, qui dit répartition, dit forcément socialisme.
Eh oui.
L'horreur. Et une dirigeante des petits partis court les meetings depuis quelques mois pour mettre les citoyens en garde contre le développement durable. Alors elle leur explique, là aussi je cite, « Vous avez le choix, posséder et contrôler vos propres biens ou devenir vous-même la propriété des autres. » Alors évidemment, vu comme ça, on a froid dans le dos, mais l'argument il porte. Hein. Ici aux États-Unis, il y a beaucoup de gens modestes qui ne possèdent pas grand-chose. Ils idolâtrent l'idée du capitalisme parce que pour eux c'est un gage de liberté. L'idée même de restreindre l'usage de leurs biens privés au profit d'un bien commun supérieur, décidé par un gouvernement, ça leur est insupportable. Alors, comme c'est l'ONU qui est à l'origine du concept de développement durable, c'est pire que tout. Un gouvernement mondial, c'est tout sauf patriotique.
D'accord, on sent bien qu'on a un petit peu de boulot. Chère Hélène Crié, j'ai vu qu'il y avait aussi une augmentation extrêmement forte, voire fulgurante, des ventes de vélos aux États-Unis.
Oui, C'est de l'ordre de 60% globalement, mais la tendance est vraiment remarquée sur un mois et demi. Hein. C'est, pour l'instant, ça reste encore pas très scientifique tout ça, mais c'est totalement lié à l'augmentation du prix de l'essence. Par rapport à la France, c'est encore à peine la moitié du prix de la France, mais quand même, c'est énorme pour ici. Donc les gens se sont mis à commuter, comme ils disent, commute avec des vélos, faire le lien entre leur maison et leur travail en vélo. Mais bon, c'est quand même un phénomène qui reste relativement marginal, parce qu'aux États-Unis, on n'est pas équipé ni en piste cyclable, ni même en trottoir. C'est très autoroutier, donc ça reste cantonné beaucoup aux villes où c'est un peu moins dangereux. Mais tout de même, 60% d'augmentation de vélos, c'est bon signe.
Eh bien, merci, chère Hélène Crié. Voilà, c'était notre contribution, enfin la contribution américaine, à la fête du vélo qui a lieu aujourd'hui partout en France. Vous verrez, ça va devenir pas du tout ringard, le vélo. Eh non, c'est un vrai truc d'avenir. Et en plus, c'est très agréable de circuler à 25 km/h pour écouter, par exemple, Paul Simon dans son casque sur France Inter. J'espère que vous allez bien. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ah bah oui, bah c'était les 50 manières de quitter une fille, hein, si je me souviens bien, c'était ça. Donc Paul Simon, une que vous ne quitterez jamais, c'est votre maman. Là, ce n'est pas possible. Bonne fête, maman, par anticipation. Une femme est avec nous, c'est Michèle Rivasi, députée européenne. Donc on poursuit ce voyage, mais on revient quand même chez nous en Europe. Députée européenne, Europe Écologie Les Verts. Et on va commencer avec vous, Michèle Rivasi, par un sujet quand même intéressant. Les tests de résistance des centrales nucléaires.
Eh ben, c'est assez conflictuel parce que vous savez qu'en Europe, il y a 143 centrales nucléaires, que l'accident de Fukushima a quand même provoqué une espèce de petit séisme aussi dans les neurones des députés européens et dans certains pays, puisque l'Allemagne a décidé de fermer temporairement cette centrale. On a l'Italie, hein, qui a fait un moratoire d'un an, et puis il va y avoir le référendum là dans quelques jours. Vous avez la Suisse qui décide aussi d'attendre un an. Et en même temps, on s'est aperçu que les nuages n'avaient pas, vous voyez, de frontières. Hein, rappelez-vous de Tchernobyl, oui. Hein, en 86. Et donc, Moi, j'étais assez surprise de voir que le commissaire Oettinger a décidé d'élaborer des critères justement de sécurité qu'on appelle les stress tests, qui sont pour voir si toutes les centrales sont capables de résister aux inondations, aux séismes, à la perte de refroidissement électrique. Ce qu'on a vu d'ailleurs, c'est le retour d'expérience un peu de Fukushima. Et en même temps, ce commissaire voulait rajouter toutes les défaillances humaines, c'est-à-dire tout ce qui touche le terrorisme, tout ce qui touche, vous voyez, l'attaque informatique, les crashs d'avions. Et là-dessus, la France et l'Angleterre refusent, vous voyez, de rajouter ces critères, de peur que leurs centrales ne soient pas conformes, parce qu'il y a très peu de centrales qui résistent effectivement aux crashs d'avions. Et le commissaire dit, il est hors de question que ce soit l'Angleterre et la France qui décident les critères, puisque c'est quand même des pays très pour le nucléaire, il faut absolument qu'on généralise ces critères. Et donc nous, on soutient vraiment ce commissaire Oettinger, qui a un certain courage politique, qu'on n'a pas suffisamment au niveau de l'Europe d'ailleurs, et qui dit non, la commission doit être associée et il faut vraiment contrôler ça par des experts indépendants. Ce que ne veulent pas encore une fois la France et l'Angleterre. Or, c'est quand même pas les gens du nucléaire qui vont contrôler leur propre centrale, puisqu'ils le font de toute façon. Et donc, c'est un combat et pour l'instant, c'est pas acté encore la grille de critères.
Michel Rivasi, on va passer maintenant de la fission à la fusion nucléaire avec le programme ITER.
Alors ça, je reviens de Cadarache avec une délégation de députés européens. On était 14 députés de différents pays européens. Et alors là, je trouve quand même il y a un scandale assez incroyable. D'abord, ITER, lorsque son coût a été établi en 2001, et le débat public d'ailleurs qui a eu lieu en 2006, il était établi à 5,7 milliards d'euros. Mmh. Donc c'est un réacteur expérimental pour faire un plasma. Et après ce plasma, s'il y a une telle chaleur qui va sortir de ce plasma, qu'on veut en faire après un deuxième réacteur qu'on appelle démo pour faire un troisième réacteur qu'on appelle proto et qui lui va fabriquer l'électricité. Donc ça veut dire que ce réacteur expérimental, il va fabriquer de l'électricité en 2080. Et qu'est-ce qu'on apprend en 2011? C'est plus 5,7 milliards d'euros, c'est 16 milliards d'euros.
Ah oui.
Donc la commission du budget a dit, mais comment se fait-il qu'il y ait eu un triplement du budget? Donc on veut avoir des comptes. Et c'est pour ça que cette délégation s'est rendue à Cadarache. Et dans l'année 2012-2013, il faut trouver 1,3 milliard de plus que ce qui avait été prévu. Mmh. Et on s'aperçoit que ces 1,3 milliard, ils vont être pris au niveau du budget de recherche de l'Europe. Donc vous voyez, ils vont prendre de l'argent dans les différents projets de recherche des différents pays européens. Et surtout, ils vont prendre quand même 650 millions d'euros à la PAC, à la politique agricole commune.
Ah, l'agriculture va payer pour ITER.
Exactement. Alors que s'il y a, soi-disant, ça a été surbudgétisé, mais avant, c'était redistribué dans les États membres. Et je crois que quand même la situation des agriculteurs à l'heure actuelle est quand même en piteux état. Et on aurait pu les aider. Eh ben non, cet argent va être pris au niveau d'ITER. Et puis en plus, 190 millions d'euros vont être pris sur des frais administratifs.
Alors on le rappelle, c'est un pari, vous l'avez dit, s'il doit y avoir un kilowattheure produit, ce ne sera pas avant 2080.
Exactement. Mmh. Et donc, nous, on pose la question. Alors moi, j'ai posé plusieurs questions. D'abord, je leur ai dit, si jamais il y a un accident, qui va payer? Puisque c'est quand même un projet international. Vous savez que l'Europe y participe beaucoup, à 45%. La France est 20% de ces 45%. Et les autres, ce sont des pays comme la Chine, comme la Corée, comme l'Inde, les États-Unis, la Russie et le Japon.
Ils ne vont pas payer, eux.
Eux, ils payent en nature.
Ah.
Bon. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'en cas d'accident, est-ce qu'il y a une assurance, comme dans le cas du nucléaire, ou est-ce que c'est la France qui va payer? Eh bien, je n'ai pas obtenu de réponse. Et puis, dans les couloirs, j'apprends qu'en fait, l'Allemagne ne veut pas payer, l'Inde ne veut pas payer, la Chine ne veut pas payer. Alors, s'il y a un accident, eh bien, ça sera la France qui va payer les dommages.
Est-ce qu'on ne vous a pas répondu? Mais il n'y aura pas d'accident, chère madame.
Exactement.
Est-ce qu'on a des certitudes?
Et on a répondu, mais le risque est low. Vous voyez, le risque est très bas. Mettons cet argent, par exemple, dans les énergies renouvelables, parce que la demande va être surtout dans les années 2020-2030 et pas en 2080.
On fait des exercices, on mouille son survêtement, pour respirer à fond, pour faire circuler le sang. Parcours santé sur des sentiers goudronnés, jeu de pistes fléchées sans trésor à l'arrivée.
Ah oui, alors pourquoi ce parcours santé? Parce que nous avons deux poumons, 15 000 litres d'air qui rentrent, que nous inspirons et expirons. Et la France est quand même mauvais élève, Michel Rivasi, en matière de respect des réglementations sur la qualité de l'air. Et en fait, nous sommes condamnés pour dépassement des valeurs sur les particules fines, si chères au diesel, mais aussi à l'agriculture, dont on parle très peu et qui quand même pollue énormément aussi notre air. Alors qu'en est-il, Michel Rivasi?
Eh bien, voyez, ça, c'est quand même l'intérêt de l'Europe. Souvent, on a toujours tendance à critiquer l'Europe, mais heureusement qu'il y a ces directives sur la pollution de l'air, comme il y a des directives sur la pollution de l'eau. Parce que là, il y a eu des normes qui ont été établies. La France, plusieurs fois, l'Europe avait tiré la sonnette d'alarme en disant « Mais attention, vous ne respectez pas les normes sur les particules fines. » Et notamment, il y avait les 10 micros et les 2,5 micros. Et que vous allez avoir une augmentation de cancer, d'allergies, etc. Et c'est pour ça que la Commission, là, va sanctionner la France pour non-respect. Elle demande rapidement que la France prévoie des plans, voyez, pour diminuer la pollution de l'air.
Michel Rivasi, d'une manière générale, aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez au sein du Parlement par rapport à ces problèmes environnementaux et écologiques, alors que nous sommes en pleine crise? Est-ce qu'il y a un resserrement? Est-ce que ça peut être une sortie? Qu'est-ce que vous sentez?
Moi, ce que je ressens, c'est que il y a vraiment un paradoxe. On est face à des défis incroyables, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la crise financière, la crise écologique. Et que là-dessus, les pays, parce qu'il y a ce plan d'austérité, vous voyez, avec ce qui se passe au Portugal, ce qui se passe en Grèce par rapport à vraiment à cette crise financière, les gens ont tendance à se rétrécir en se disant on trouvera la solution dans notre État avec des frontières et des murailles. Mais ça, pour moi, ça ne va pas du tout parce que ce n'est pas à cette échelle-là qu'on pourra résoudre ça. Tout à l'heure, on parlait de la radioactivité qui n'a pas de frontières, mais vous voyez, la pollution de l'air non plus. Fukushima montre que ça peut aller très très loin, même par l'intermédiaire des océans. Et donc, il faut que ça soit à l'échelle européenne. Mais alors, ce qu'il faudrait, et l'autre fois j'écoutais Michel Rocard, où j'étais tout à fait d'accord avec lui, il faudrait vraiment une dimension politique très forte sur le plan européen, en disant c'est au niveau de l'Europe qu'on pourra résoudre
mais
ça.
Il n'y en a pas. Hein,
et que là, on n'est que sur la partie économique. Oui. Voilà, on n'est que sur des marchés et on n'est pas sur l'humain. Eh bien, il faut revenir à une Europe plus sociale, plus solidaire.
Et alors l'environnement que, combiné à la valeur sociale, ça peut être une porte de sortie, une porte d'avenir au contraire?
Quand on se bagarre en disant, mais prenons une dimension politique forte, en disant que c'est sur le plan européen et au-delà d'ailleurs qu'on pourra résoudre ces problèmes-là et qu'on pourra transmettre une planète à peu près potable aux générations futures. Mais pour ça, il faut qu'on se regroupe et qu'on fasse sortir l'Europe par le haut.
Merci à vous, Michel Rivasi. Alors, je vous rappelle, hein, vous allez à Malemort, si vous le souhaitez, dans les Bouches-du-Rhône, pour retrouver Marc Jolivet. Vous avez donc la foire écologique et biologique de Nyons. Nous sommes dans le département de la Drôme. Vous avez aussi le Festival du Jardin, Jardin et Paysage. C'est un classique aussi dans le département du Tarn, du côté de Gaillac. Et puis, si vous souhaitez lire Terre Sauvage, eh bien, je vous y invite dans ce numéro de mai, au-delà d'un petit papier en général assez facétieux. Les Gorges de la Loire sont très bien représentés, et puis aussi Nature insolite quand les animaux battent des records dotés de capacités incroyables. Et bien vous avez tous les records des animaux, sans oublier aussi un reportage du côté du Mali à main contre nue contre le sable. Merci à Sandrine Laurent, à Élise Christophe, Marion Lelay et Jean-Christophe Epinaza sont remerciés également. Je n'oublierai pas Valérie Ayestaraï qui a réalisé cette émission, Muriel Pérez qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO de Mon Amour. La semaine prochaine, Jean-Marie Pell, ça ne va pas vous surprendre. Un petit reportage du côté des Mauges. Ah, où c'est? On n'est pas très loin de Chemillier, de Cholet, donc vous verrez cela. Et Frédéric Denry nous rejoindra aussi pour une partie actualité. Possibilité pour vous d'enregistrer l'émission pendant une semaine, de la réécouter pendant 4 semaines. Et puis je vous retrouve avec grand plaisir pour l'Atu du Montilou. Ce sera demain à 19h54, après les petits bateaux. Vous savez presque tout. C'est l'occasion de le citer, donc ce générique avait été composé et composé spécialement pour notre émission par Fabrice Ravel-Chapuis. On ne s'en lasse pas avec de très beaux instruments. On va rester dans la musique, on va aller à Vienne. À mon avis, c'est pas pour une valse, mais c'est plutôt pour le jazz.